Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons parler de nombreux secteurs économiques stratégiques sur le continent. À l'image de l'immobilier et de l'aérien, nous irons en Côte d'Ivoire retrouver Philippe Eponon. Il est le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Avec lui, nous parlerons de l'évolution du secteur immobilier dans la première puissance économique de l'espace UMOA. Vous l'entendrez dans quelques minutes. C'est l'un des faits marquants à retenir au cours de cette semaine. Royal Air Maroc et Air Sénégal renouent leur collaboration. Près de 14 ans après l'expérience douloureuse qui avait conduit à la faillite d'Air Sénégal International, les deux compagnies ont signé un mémorandum de coopération. De quoi s'agit-il? On va en parler dans le Zoom Express avec l'expert aérien Mansour Diop. Quels sont les principaux sujets de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer ces titres, prenons la direction de Marrakech, la ville ocre qui se relève du traumatisme du séisme dévastateur d'Al-Haouz, a accueilli la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé avec la participation d'éminentes personnalités de la scène africaine et internationale, organisée sous le thème « Santé en Afrique, eau, environnement et sécurité alimentaire ». Cette conférence internationale avait pour but de mettre en avant la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique. On écoute à ce propos Iman Kendili, elle est la présidente de l'association African Global Health.
Le but est de pouvoir travailler ensemble. Cette conférence est une première conférence Sud-Sud, c'est-à-dire que nous avons plusieurs pays amis d'Amérique du Sud et d'Europe, d'Océanie, etc., et d'Asie. Et les représentants et les ambassadeurs d'African Global Health à travers la planète sont pour la mise en place d'un travail d'expertise et de bureau au niveau de l'Amérique du Sud et de l'Asie et de Middle East pour pouvoir travailler en coordination avec les Africains. L'Afrique tend le monde, aujourd'hui à Marrakech, avec plus de 84 délégations présentes. Et le Maroc, l'Afrique bien debout, sont aujourd'hui résilients, travailleurs et responsables et œuvrent pour la mise en place d'un futur souverain sanitaire en Afrique.
Il faut noter que cette conférence intervient dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des crises sanitaires et des épidémies, des changements climatiques, mais aussi de la pénurie d'eau et de la sécurité alimentaire. Des crises qui ont un impact direct sur les systèmes de santé et sur les chaînes de valeur agricoles et logistiques.
Zoom Express.
Je vous le disais en titre, la Royal Air Maroc et Air Sénégal ont signé mercredi à Casablanca un mémorandum d'entente. Cet accord initie un partenariat stratégique entre les deux compagnies aériennes et devrait profiter à leurs passagers à travers l'augmentation des possibilités de connexion et la diversification des choix en termes d'horaires et de jours de service. À propos de ce mémorandum d'entente entre RAM et Air Sénégal, je vous propose d'écouter l'analyse de l'expert aérien Mansour Diop. Il nous parle depuis Dakar.
La coopération Sud-Sud, c'est le cas. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer dans bien des domaines, bien entendu, mais puisque c'est le domaine du transport aérien qui nous intéresse ici. Un meilleur maillage du continent, donc une meilleure connectivité, comme nous disons dans le jargon, donc de meilleures liaisons en termes de nombre et de qualité entre pratiquement toutes les grandes villes et les villes moyennes de ce continent, c'est un objectif qui peut être atteint mais en tenant compte dans des signatures comme nous avons eu à le constater ici. C'est un document, je disais, qui ratisse large puisqu'il parle également de coopération technique, de formation, etc., d'opportunités et d'opérations en matière d'affrètement des avions, pourquoi pas, et certainement des domaines de coopération tels que se mettre ensemble pour négocier ensemble des postes très importants dans le compte d'exploitation et qui sont budgétivores comme le carburant, les assurances, la maintenance, etc. Alors quand je dis qu'ils ratissent large, c'est qu'ils couvrent effectivement tous les domaines et ils ont, par la suite, ils auront certainement un programme de travail qui leur permettra de s'attaquer à chacun des paramètres de cette vaste coopération et de ne rien laisser au hasard pour réellement montrer, obtenir et signer un partenaire gagnant-gagnant par secteur. Et je pense que si cela est bien compris, et j'ai fort espoir que c'est bien le cas, eh bien, une telle signature ne peut qu'être objet de satisfaction des observateurs du secteur, des professionnels du secteur.
Royal Air Maroc et Air Sénégal renouent donc leur collaboration près de 14 ans après l'expérience douloureuse qui avait conduit à la faillite d'Air Sénégal International. Là, il s'agit d'un partenariat entre deux entités totalement indépendantes l'une de l'autre. Mais il faut surtout éviter de répéter les erreurs du passé, nous dit l'expert aérien Mansour Diop.
Bien sûr, quand un tel événement est diffusé, on ne peut s'empêcher de penser à la première coopération aéronautique affirmée qui avait conduit au lancement du premier vol d'Air Sénégal en 2001 et à la cessation de ses vols en 2009, soit 8 ans d'exercice, 8 ans d'opération, mais dont les deux dernières années ont été fortement chahuté cette coopération, puisque même le mot conflit a souvent été utilisé entre les parties sénégalaises et marocaines. Mais il semble que l'eau ait coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, faut-il garder le fardeau du passé ? Non, mais il ne faut pas l'oublier. Il faut plutôt en tenir compte pour mieux faire pour la suite. Ne pas répéter les mêmes erreurs.
Enfin, notez que ce mémorandum d'entente prévoit, par ailleurs, un renforcement de la coopération commerciale entre les deux partenaires à travers un accord code share. Ainsi, les passagers peuvent acheter les billets auprès du réseau de vente de l'une ou de l'autre des deux compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de la Royal Air Maroc et d'Air Sénégal.
Coémergence, l'invité.
Direction la Côte d'Ivoire pour retrouver Philippe Eponon. Philippe Eponon est le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Avec lui, nous allons parler de l'évolution du secteur immobilier dans la première puissance économique de l'espace UEMOA. Philippe Eponon est en direct avec nous depuis Abidjan. Bonjour à vous Philippe Eponon et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Baldé, c'est tout un plaisir et un honneur pour moi de partager avec vous mon sentiment sur l'évolution de l'immobilier en Côte d'Ivoire.
Exactement, c'est partagé. Alors justement, comment va le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire?
Écoutez, le secteur d'immobilier va, je dirais, globalement bien. Toute la Côte d'Ivoire est en construction au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, la lecture va dépendre de l'angle sous lequel chacun des opérateurs, chacun des acteurs regarde. Et dans l'immobilier, il y a les aménageurs, il y a les promoteurs, il y a les acquéreurs, il y a l'État, il y a les banques. Et donc chacun de sa fenêtre va avoir donc une lecture donc de l'évolution de l'immobilier. Mais globalement, tout va très bien. En tout cas en Côte d'Ivoire pour l'immobilier, chacun des acteurs essaie de faire au mieux ce qu'il peut pour que tout fonctionne pour le meilleur, pour aussi bien les acquéreurs, pour l'État et pour l'entrepreneur lui-même que nous sommes. Sinon, du point de vue du promoteur, il faut dire que c'est un peu mitigé pour les promoteurs locaux. Les locaux, très motivés certes, mais manquent en général de ressources. Pour les internationaux, c'est beaucoup plus, je dirais pas aisé, mais c'est un peu plus facile parce qu'ils disposent déjà de ressources. Pour les acquéreurs en Côte d'Ivoire, on a en général un problème de solvabilité ou de niveau de ressources pour acquérir des biens avec le renchérissement du coût de la vie. Mais l'État fait au mieux pour essayer de faire monter un peu, de faire baisser les coûts de production. Et donc, les moyens nantis, c'est un peu plus compliqué. Pour l'État, par exemple, l'État peut donc valoir donc, les besoins, okay, pour que les opérateurs que nous sommes d'accord, puissions d'accord, apprécier et pour prendre des initiatives. Mais il est évident que vu la demande que l'État a, ben, l'État ne peut pas être satisfait de la cadence de production.
D'accord. Alors, on va en parler tout à l'heure. Philippe Eponant, si vous permettez, je rappelle que vous êtes le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Alors, on va essayer d'aller point par point. Vous dites que globalement, ça va. Vous avez parlé des différents types d'acteurs qui sont présents. Justement, parlons de ces acteurs-là. Quels sont les grands acteurs ou les principaux acteurs ou tout simplement, quelle est la cartographie des acteurs qui interviennent dans le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire?
Alors, l'immobilier en Côte d'Ivoire a deux grandes phases. La première phase, au sortir des indépendances, on avait des gros acteurs qui étaient des sociétés d'État et qui ont logé la majorité, de la population en Côte d'Ivoire. Mais c'était donc des sociétés d'État, donc avec des subventions d'État et les coûts de production étaient beaucoup plus bas. Depuis quelques années, quelques dizaines d'années, je pense que sous la pression des partenaires multilatéraux ou bilatéraux, l'État a commencé à se désengager en voulant laisser donc la main à des opérateurs privés pour pouvoir continuer l'action. Mais à côté de ça, je ne dirais pas se désengager, parce que l'État reste maître de la situation. L'État donc essaie de trouver des artifices pour que tout le monde puisse y aller. Les grands acteurs en effectif, c'est d'abord des acteurs ivoiriens en effectif. Déterminés, mais peut-être pas avec beaucoup de ressources. Après, vous avez les acteurs internationaux, qui sont les grandes sociétés internationales, qui ont la surface financière pour faire de la production de masse. Et puis, vous avez des individus privés qui, sur la base de leurs propres ressources ou de la confiance que les banques leur font, qui peuvent eux aussi, qui sont eux aussi en train de faire du développement immobilier. Donc, voilà les trois grands acteurs actuels, sachant que les acteurs de sociétés d'État ont disparu, plus ou moins, puisque l'État a voulu les convertir ou les convertir plus ou moins en société rentable ou au moins qui s'équilibre. Voici à peu près comment ça se présente.
On sait qu'il y a des acteurs marocains présents sur place. On va en parler tout à l'heure, mais parlons aussi de ce qui intéresse peut-être d'éventuels acquéreurs. Quels sont les segments les plus en vogue ou les plus rentables actuellement en Côte d'Ivoire?
Ben, il est évident que dans tous les pays du monde, le segment de luxe est le plus rentable. Mais le segment de luxe est rentable pour l'opérateur, mais il présente, je ne dirais pas autant d'intérêt pour l'État, qui lui comptabilise les besoins, hein, pas donc pas autant d'intérêt pour l'État que pour le promoteur immobilier. Donc, on a donc le segment du luxe, après vient le segment économique, et après les habitats sociaux. Alors, les habitats sociaux, c'est là où il y a le plus de demandes, mais les habitats sociaux sont un peu à la traîne, parce que quand on privatise et qu'on demande à un opérateur économique de construire des habitats sociaux, il faut des accompagnements. Et là, l'État trouve les artifices, plus ou moins, pour essayer d'accompagner, mais il est évident que ce n'est pas simple. Donc, et le privé et l'État se mettent ensemble pour trouver aujourd'hui le meilleur mécanisme pour financer ces logements sociaux. Mais les logements économiques, les logements de luxe, je peux dire, pour des gens qui sont intéressés, le marché est ouvert en Côte d'Ivoire et il est porteur.
Le marché donc est ouvert et porteur, mais cela nécessite bien évidemment de régler les problématiques liées au financement, justement, aussi bien pour les immobiliers, les promoteurs immobiliers que les acquéreurs. Quelles sont les équations relatives au financement qui se posent sur place?
Le financement dans l'immobilier, les deux vraies problématiques, c'est le foncier et le financement. Alors, pour les acquéreurs, je n'en connais pas beaucoup d'entre nous qui avons du cash pour payer un bien immobilier. En tout cas, tout comptant cash. Donc, on est obligé de passer par les banques. Mais les banques ont leurs règles. Et les revenus que nous avons, il y a une quantité qui n'est pas cessible. Et quand on fait l'équation, c'est généralement que la majorité de ceux qui veulent bénéficier de logement n'ont pas forcément les ressources pour payer dans les délais qui sont prévus de rembourser à une banque ou à un opérateur économique. Donc, on a des problématiques de financement sur du long terme. Et la ressource à court terme existe, les banques sont liquides, mais la ressource à long terme n'existant pas, cela donc pose un problème de disponibilité de ressources. C'est pour ça que les opérateurs internationaux, qui probablement ont d'autres mécanismes internationaux, peuvent mieux se porter que les opérateurs locaux qui ont un peu plus de mal avec les surfaces financières plus petites, mais l'État et les opérateurs travaillent aujourd'hui à trouver un mécanisme pour arranger les acquéreurs de telle sorte que même ceux qui ne sont pas tout à fait solvables dans l'immédiat puissent à terme être propriétaires de leurs biens.
En tout cas, je pense que c'est très intéressant. C'est des problématiques donc à solutionner certainement pour permettre un plus rapide développement du secteur de l'immobilier parce que la demande est là. Et je pense aussi que le déficit est là aussi, Philippe Epono.
Alors, le déficit est abyssal. Malheureusement, quand on écoute, parce que l'État a les besoins des populations. Quand l'État annonce les besoins des populations, on l'enregistre et c'est vrai que cela donne l'envie d'investir là-dedans. Mais, comme je disais tantôt, les ressources n'étant pas illimitées pour les opérateurs et la durée de mise à disposition des ressources étant très limitée, cela pose un problème d'engagement de l'opérateur pour pouvoir satisfaire les besoins de l'État. Il faut donc, d'une façon ou d'une autre, un mécanisme soit trouvé entre l'État et les opérateurs, mais un mécanisme qui soit acceptable par les partenaires, je dirais multilatéraux ou bilatéraux, pour que tout le monde puisse, dans un même élan de compréhension du sujet, puisse développer des habitats sociaux et économiques dans l'intérêt des populations. Parce que le taux de croissance en Afrique, et ça ce n'est pas qu'à Abidjan, c'est partout ailleurs, le taux de croissance est très élevé, et le taux de production ou d'aménagement des espaces pour les populations, le taux est un peu plus bas, moins élevé que le taux de croissance des populations, ou le besoin d'évolution pour combler le déficit, d'accord ? Le besoin existe, mais le comblement des déficits est beaucoup plus long parce qu'on n'a pas encore trouvé le mécanisme parfait. Même s'il n'existe pas, allons vers un mécanisme qui permet d'augmenter, de doubler, de tripler les capacités de production dans l'intérêt de tous les acteurs.
Alors, une dernière question, et je l'avais évoquée tout à l'heure, la présence des acteurs marocains sur place, comment vous la jugez, mais surtout, quelle coopération est possible, car vous êtes tous des acteurs africains.
Écoutez, la coopération sud-sud est une bonne chose. Mais pour aller dans un mariage, chacun y va avec ses atouts. L'économie ivoirienne est une économie qui est tout à fait libéralisée. Et mettez-vous à la place des opérateurs qui arrivent. S'ils arrivent, ils ont les ressources, ils ont le foncier, ils ont la technologie, est-ce qu'ils ont besoin forcément d'un opérateur local pour y aller? Ça, c'est la problématique. Donc, la coopération est possible, mais qu'est-ce que nous avons à offrir, nous, les locaux? On a à offrir notre connaissance du terrain. C'est tout ce qu'on a à offrir. Qu'est-ce que ça pèse dans une coopération, même sud-sud, où l'un apporte, je dis, tout ce qui est capital, et l'autre apporte ce qui est accessoire? Sinon, toute coopération est possible. Il y a de la sous-traitance qui peut se faire, mais des fois, malheureusement, c'est des sous-traitances de dupes. Comme je dis toujours dans les travaux publics, vous pouvez sous-traiter pour 30%, mais 30%, vous allez poser des gazons, vous allez faire quoi, des bordures, vous allez faire, je ne sais pas quoi, des caniveaux. Ça ne fait pas de vous à terme un opérateur de l'immobilier. Ça ne fait pas de vous à terme un opérateur de travaux publics. Donc, c'est ça un peu la petite nuance qu'il faut relever et voir dans quelle mesure, je ne dirais pas des contraintes, mais des mécanismes peuvent être mis en place pour que les acteurs locaux puissent s'amarrer aux acteurs internationaux, de sorte qu'il y a d'abord un transfert de technologie, mais que ces acteurs locaux puissent grandir au contact de ces acteurs internationaux, et puis que dans les années qui viendront, comme tous les pays le veulent, que ce soit les acteurs locaux qui soient essentiels dans la production donc, de logements sociaux, économiques et même de haut standard.
Merci à vous, Philippe Epono. Je rappelle que vous êtes le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Ce fut un plaisir de vous avoir comme invité dans Coémergence.
C'est moi qui vous dis merci.
Merci à vous.
Destination Éco.
Et nous restons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou et le pays souhaite relever le défi de la transformation de cette matière première. Une zone agro-industrielle a ainsi été installée dans le nord du pays. Sa mise en service s'est faite en présence de plusieurs responsables et investisseurs. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, y était également. Écoutons son reportage.
L'anacarde s'affirme au fil des années comme un secteur stratégique de l'agriculture ivoirienne et de l'économie nationale. En 10 années, la production annuelle de cette matière première a plus que doublé, passant de 400 000 tonnes en 2011 à plus de 1,2 million de tonnes en 2022. La noix de cajou représente actuellement le deuxième produit d'exportation agricole du pays derrière le cacao. La filière a amorcé un développement industriel avec l'implantation de plusieurs unités de transformation. Parmi celles-ci figure en bonne place la zone agro-industrielle de Korogo. D'une superficie de 28,5 hectares, cette infrastructure est aménagée au profit d'opérateurs privés désirant s'installer et comprend une plateforme d'une superficie de 17,45 hectares à repartir en 7 lots industriels d'une superficie variant entre 1,59 hectares et 2,86 hectares.
L'occupation de tous les lots par des industries permettra l'insertion professionnelle des populations riveraines et plus particulièrement des jeunes et des femmes, avec plus de 8000 emplois directs qui seront créés.
La zone agro-industrielle de Korogo propose par ailleurs une aire de séchage, trois entrepôts de stockage de 2500 mètres chacun, des aires de stationnement de camions poids lourds, dont un parking extérieur de 13 000 mètres carrés et un parking intérieur de 7 000 mètres carrés et de deux postes de pisage. La réalisation de l'infrastructure a été possible grâce à un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale au Conseil du coton de l'Anacard dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs.
Ceci également permet de générer également de la valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne en exportant maintenant des produits transformés au lieu de matières premières brutes.
Présent à la cérémonie de mise en service de cette zone agro-industrielle, le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, a exprimé sa fierté par rapport aux efforts du gouvernement visant à accroître la transformation des produits locaux.
L'aménagement de cette zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde va créer un cadre propice à l'installation d'unités industrielles de transformation de la noix de cajou.
Premier pays producteur de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour atteindre un très bon niveau de transformation. Selon les dernières statistiques de 2022, le pays a atteint un taux de transformation avoisinant les 22%.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Médian à Abidjan. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médian Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur nos ondes et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.